Philippe Wächter, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes chef économiste chez Natixis Asset Management. On va parler avec vous d'économie, mais aussi de politique, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, que ce soit les investisseurs, les économistes, tout le monde est concerné par ce qui se passe, notamment en France. On voit même des réactions d'investisseurs internationaux qui scrutent ça de près. Vous avez écouté, comme moi, le dernier débat, vous avez dû entendre des choses sur les monnaies. Quand vous entendez que la monnaie, ce n'est pas important, ce n'est pas quelque chose d'important pour les Français, comment vous réagissez, vous, l'économiste?
C'est une réponse qui a été spectaculaire parce que on sait bien que la monnaie est un élément clé qu'un consommateur, qu'un individu, qu'un citoyen va avoir en sa monnaie, en son devenir, parce que la confiance dans la monnaie, c'est quelque chose de très fort. Et là, faire la dissociation entre une monnaie commune, une monnaie nationale, dont on Finalement, on, peu importe la liaison entre les deux, etc. Tout ça a été extrêmement flou et extrêmement perturbant parce que c'est pas du tout le sentiment qu'on peut avoir quand on discute avec les gens ou même à titre personnel. On a un rapport très particulier avec la monnaie et considérer que c'est pas très important, c'est problématique.
Alors, vous voyez aussi qu'il y a pour certaines personnes, cette impression depuis longtemps, hein, ça date pas de cette élection, mais que finalement, avec l'euro, il y a eu de l'inflation, il y a une espèce de mauvaise compréhension finalement, peut-être que l'euro n'a pas fait un bon marketing non plus, mais et puis il y a cette crise, il y a ce chômage endémique, donc il y a des liens qui sont faits entre la monnaie, finalement cette nouvelle monnaie qui est là, et puis la situation économique et sociale.
Alors, nouvelle monnaie, c'est quand même une monnaie qui existe depuis près de 20 ans maintenant, hein. Elle démarre financièrement en 99, donc tout ça est très long. Juste un point sur l'impact inflationniste. Il n'y a pas un institut type INSEE qui l'a remarqué. Il y avait une étude italienne qui avait été très intéressante sur la vitesse à laquelle les gens allaient chercher de la monnaie au distributeur. Et n'ont pas trouvé de rupture à l'époque. Mais tout le monde a en tête des prix qui parfois sont très anciens et qui ne sont pas du tout actualisés et qui suggèrent qu'effectivement, ça augmente, avec l'euro, ça a augmenté. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et puis, l'avantage de l'euro, si je puis dire, c'est que voilà, c'est une monnaie qui n'est pas nationale, justement, et qui peut servir de bouc émissaire. Donc l'euro, je ne dis pas qu'il a toutes les qualités. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut discuter, sur l'environnement politique, budgétaire. Enfin, il y a plein de discussions qui ont lieu entre économistes, mais de là à lui attribuer tous les maux dont souffre l'économie française, c'est un peu rapide.
Il y a aussi cette idée que finalement, dans cette zone euro, l'Allemagne profite de la zone euro à son excédent, à ses excédents extraordinaires, et puis que depuis longtemps, la France n'en profite pas.
Mais la question qui est posée ici, c'est est-ce que l'économie française a bougé suffisamment pour s'adapter? En d'autres termes, on avait l'habitude, avant la mise en place de l'euro, même avant, jusqu'au début du système monétaire européen, on avait tendance en France à dévaluer la monnaie pour s'ajuster. Bon, finalement, les réformes structurelles, c'était ça. On dévaluait la monnaie et on avait le sentiment d'avoir fait un pas en avant. Depuis qu'on ne peut plus ajuster la monnaie du fait de l'euro, eh bien, on n'a plus cette capacité et il faut qu'on trouve les moyens d'ajuster notre modèle économique à cet environnement. Et c'est cette partie-là qui est très compliquée et sur laquelle se heurtent les gouvernements depuis très longtemps. Et ça traduit une volonté limitée des Français à vouloir changer parce que finalement, on a une économie qui est assez confortable pour un certain nombre de gens et l'incitation à changer est finalement assez limitée. Mais on voit bien que par moment, et on le voit bien dans cette campagne, hein, il y a des oppositions très fortes, on voit bien qu'on a manqué quelques marches dans l'histoire pour être totalement compétitif aujourd'hui.
Et quand on se compare justement à l'Allemagne, qu'est-ce qui nous manquerait aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque à la France? On parle souvent des entreprises moyennes, des entreprises de taille intermédiaire. Il y a un dirigeant qui rappelait récemment les charges, notamment salariales. Qu'est-ce qui fait la vraie différence, qui fait qu'au bout du compte, bah, on a on va dire ce déficit économique, on n'y arrive pas?
Je pense que la question, quand j'étais étudiant, était déjà posée. On comparait le Mittelstand allemand aux entreprises industrielles françaises de taille petite et moyenne, et on disait oui, les Allemands ont un avantage comparatif. On ne reviendra pas sur le Mittelstand. Les Allemands ont un avantage spécifique. Donc, à nous de développer autre chose. Et c'est là la grande difficulté, c'est que on s'est laissé porter et on n'a pas développé comme on le souhaitait. Alors, ça peut passer par des start-up, ça peut passer. Il y a tout un tas d'éléments sur lesquels on doit dynamiser l'économie. Et toute la question, c'est de dire, on ne fera pas une industrie à l'allemande. On ne développera pas un excédent de X% du PIB comme l'Allemagne. C'est pas notre façon de faire. À nous de nous développer sur les services et de faire de telle sorte que l'économie puisse se dynamiser de la sorte. Et c'est cette option-là qu'il faut prendre. Le tournant a déjà été pris parce qu'on voit bien que sur les start-up, maintenant, il est facile de s'installer, etc. Donc, c'est un tournant qui a été pris. À nous d'aller au-delà encore pour que l'économie française puisse avoir ses vertus spécifiques et qui ne soit pas celle copiée sur l'Allemagne.
Donc, quelque part, il n'y a pas forcément un modèle idéal. Il y a peut-être des bonnes idées à prendre sur certaines expériences dans certains pays, mais il n'y a pas un copier-coller.
Oui, et puis on n'a pas la même dynamique démographique. Hein. La population allemande ralentit, vieillit très vite. Ce n'est pas du tout le cas de la France. Donc, on a une dynamique de consommation qui est plus forte que celle qu'on observe en Allemagne. Donc, on a des différences considérables. Donc, ne copions pas ce modèle. Ça n'a pas beaucoup de sens.
Lundi prochain, celui ou celle qui sera à l'Élysée aura l'état du monde, l'économie mondiale. Dans quel état se trouve, selon vous, l'économie mondiale? Et avant d'en parler, l'économie française, elle en est où, là?
L'économie française, elle est dans une zone euro qui va plutôt bien. C'est-à-dire qu'on a une dynamique, me semble-t-il, assez vertueuse aujourd'hui sur l'économie de la zone euro, sur l'économie française. On a eu très longtemps des chocs négatifs, hein, les politiques budgétaires qui étaient restrictives. Tout ça est fini. On a une politique monétaire qui est très lisible de la part de la Banque Centrale Européenne. Les taux d'intérêt sont bas encore un bon moment, ce qui fait que chacun peut optimiser en fonction de ses propres contraintes. Et on voit l'horizon économique s'éloigner pour les chefs d'entreprise notamment. Ça crée des incitations à investir, à créer des emplois. C'est clairement l'environnement dans lequel on se situe aujourd'hui en France et en zone euro. Et donc le prochain locataire de l'Élysée bénéficie aujourd'hui d'un environnement extrêmement porteur. À lui ou à elle, on ne sait pas encore, d'amplifier ce mouvement. Et ce phénomène-là sera d'autant plus important que quand on regarde le commerce mondial, on a peut-être aujourd'hui des signaux beaucoup plus favorables sur la dynamique du commerce mondial. Donc si on a un cycle plus vertueux, plus autonome en Europe, et qu'on a cette impulsion qui vient du reste du monde, on peut avoir sur les 2-3 années qui viennent une dynamique de croissance assez robuste et une dynamique qui sera peu inflationniste pour l'instant.
Donc là, ça serait effectivement ce qu'on appelle cette synchronisation au niveau mondial.
Exactement. Le seul risque majeur aujourd'hui, me semble-t-il, c'est ce qui se passe aux États-Unis, où on attendait. Aux États-Unis, le cycle est très long. Hein, il démarre au deuxième trimestre 2009 et voilà, il s'épuise un peu, ce qui est naturel. Et on attendait de la part, après l'élection de Donald Trump, une impulsion de politique économique et cette impulsion ne vient pas. Et donc la vraie question, c'est que tous les chefs d'entreprise, notamment les ménages aussi, avaient des anticipations très fortes sur les baisses d'impôts, sur la déréglementation, etc. Ça ne vient pas. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que la déception ne sera pas à la hauteur des attentes? Et là, on pourrait avoir, sur la deuxième partie de l'année, s'il ne se passe rien d'ici là, un changement d'attitude, un changement de tendance qui pourrait être déprimant pour l'économie américaine. C'est aujourd'hui le point le plus fragile, me semble-t-il, de la conjoncture globale.
Merci, Philippe Vechter.
Merci.